Bien, ben bonjour à toutes et tous. Donc nous remercions vivement Michel Lallemand et Isabelle Frémaux d'avoir accepté notre invitation à cette séance donc intitulée Les alternatives à la domination capitaliste, l'utopie en pratique. Cette séance en fait est le fruit d'un travail entre trois RT. Le RT 18, sociologie des relations professionnelles, qui est représenté, enfin qui n'est pas représenté par Hervé Champin, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais que nous saluons par caméra interposée. Gaëtan Floco, qui est à ma gauche pour le RT 25, travail, organisation, emploi, et moi-même au titre du RT 35, sociologie du monde associatif. Alors, l'utopie est aussi vieille que le capitalisme, peut-être même plus.
Oui, je pense que vous voyez plus, oui.
En tout cas, le terme d'utopie, qui renvoie évidemment à Thomas More, en 1716, qui écrit donc au moment des débuts du capitalisme marchand. Il a cette citation qui, d'une certaine façon, anticipe, à mon sens, la tension, une des tensions majeures entre capitalisme et démocratie. Je n'ai pas résisté à la tentation de vous la lire. Partout où la propriété est un droit individuel, où toute chose se mesure par l'argent, là, on ne pourra jamais organiser la justice et la prospérité sociale. À moins que vous n'appeliez juste la société où ce qu'il y a de meilleur est le partage des plus méchants, et que vous n'estimiez parfaitement heureux l'État où la fortune publique se trouve la proie d'une poignée d'individus insatiables de jouissance, tandis que la masse est dévorée par la misère. Alors depuis Thomas More, certains comme Francis Fukuyama à l'aube des années 90 ont prophétisé la fin de l'histoire, la fin des utopies. Et on peut s'interroger, et c'est un peu l'objet de cette séance, y a-t-il encore des utopies aujourd'hui ? À l'heure où ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire est en train de faire l'objet d'une loi au Parlement. Cette économie sociale et solidaire qui incarne une manière de faire de l'économie autrement peut, par exemple, hein, mais c'est pas le seul exemple, incarner des utopies d'aujourd'hui. Alors, on n'a pas voulu revenir aux doctrines, aux écrits, aux théories, et on n'aurait évidemment pas le temps, théories du socialisme utopique que Michel Lallemand a, par exemple, étudié à travers le cas de Jean-Baptiste André Gaudin, sur lequel il aura l'occasion de revenir. Et on a bien voulu partir, comme le titre l'indique, des utopies en pratique, comme le dit très bien l'historienne Michèle Riault-Sarcey. Avant d'être guidés par la doctrine, les utopies sont d'abord portées par l'événement.
Donc, c'est pour cette raison que nous avons choisi donc, de croiser les travaux de nos deux invités, donc Michel Lallemand, professeur de sociologie au CNAM, qui est l'auteur du travail de l'utopie Gaudin et le familistère de Guise, paru en 2009, et qui poursuit actuellement également l'écriture d'une recherche sur les hackerspaces dans la baie de San Francisco. Et puis donc Michel Frémaux et John Jordan, donc respectivement. Isabelle Frémaux et John Jordan, donc respectivement chercheurs indépendants en sciences sociales et artistes activistes, sont donc les auteurs du livre Les Sentiers de l'Utopie, paru en 2011. Donc Michel, à partir d'une recherche historique, analyse toute la genèse du projet progressiste du palais social de Jean-Baptiste Gaudin, puisant lui-même son inspiration dans le phalanstère de Fourier. L'objectif était de réconcilier donc le capital et le travail en créant une communauté harmonieuse. Ce travail donc réalisé à partir de l'exploitation des archives du Familistère de Guise s'est poursuivi donc par une observation minutieuse des pratiques de coopération et de travail autonome à l'œuvre dans les communautés hackers en Californie. Et puis Isabelle et John, à travers donc un road movie sillonnant l'Europe, ont exploré donc eux une multitude d'expériences collectives qui ont visé à dépasser les modes de vie et de travail capitalistes, ce qui a donc débouché sur un ouvrage et puis également sur un documentaire. Voilà, donc on vous donne la parole à tous les deux. Donc je crois que Michel, tu démarres donc pour une demi-heure et puis ensuite Isabelle. Voilà, merci.
Merci à vous, merci de cette invitation et merci à vous d'être présent. Alors, je vais démarrer en évoquant ce qui pourrait être un paradoxe, c'est-à-dire le fait d'associer utopie et domination. On sent intuitivement pourquoi. On se tourne du côté des utopies pour essayer d'imaginer comment éradiquer les dominations, mais dans notre histoire commune, qui est celle de l'histoire de la sociologie, en fait, il y a une espèce de scène bizarre qui s'est jouée aux origines, puisque vous le savez que Karl Marx et Engels ont joué quand même un très très mauvais coup aux utopies, notamment en 1845, lorsqu'ils ont décidé de fonder une bibliothèque des auteurs étrangers dans le domaine qui les intéressait, c'est-à-dire le communisme, en séparant d'un côté le communiste, les vrais auteurs communistes, et de l'autre côté les auteurs utopistes. C'est resté très longtemps, comme vous le savez. Et en même temps, lorsque l'on regarde Durkheim, et notamment les formes élémentaires de la vie religieuse, Durkheim dit des choses extrêmement intéressantes. Il ne parle pas d'utopie, mais il parle de société idéale, et il explique que la société idéale a une place tout entière dans la société réelle. C'est-à-dire que la façon de rêver la société explique largement la société telle qu'elle va. Et donc il a fallu quand même quelques années pour pouvoir dépasser ce qui a priori pouvait être une aporie sociologique, en tout cas du point de vue de notre histoire commune. Alors je vais essayer de le faire de différentes manières, mais comme il vient d'être dit, en tirant le fil des utopies concrètes. Alors vous voyez immédiatement l'oxymore, hein, utopie concrète, mais je vais essayer de m'en expliquer, et je crois que ça va être un des messages d'aujourd'hui, de dire qu'aujourd'hui qu'il y a un nouveau programme de travail sociologique qui est en train d'émerger sur les questions des utopies en pratique. Et derrière ces utopies concrètes se joue bien sûr la possibilité d'imaginer des formes d'émancipation nouvelles, originales, et sont en même temps tout à la fois des champs d'observation, de domination, dont on verra très bien qu'elles ne disparaissent pas de ces utopies concrètes, mais que l'observation permet de mettre à jour des formes à la fois de transformation des dominations, de création de pare-feux sociaux, etc., etc. Donc voilà l'objectif de mon intervention. Alors, je voudrais le faire en prenant un résultat d'un des rares travaux empiriques de sociologie des utopies qui a eu lieu aux États-Unis dans les années 70 et d'une sociologue des organisations qui s'appelle Moss Kanter, qui a fait un travail de comparaison d'une centaine de communautés utopiques à la fin du 19e siècle et qui a mis en évidence l'existence de deux facteurs extrêmement importants qui conditionnent le fait pour une communauté de perdurer. Communauté avec des valeurs utopiques et émancipatrices fortes. Premier élément, l'importance d'un leader charismatique solide. Et donc, on touche à la question de la domination charismatique à partir de ce point-là. Et deuxième condition, c'est l'existence dans ces communautés d'une vie collective démocratique. Et donc, là, on va toucher à la question de la régulation sociale. Donc, à partir de ces deux entrées, domination charismatique et régulation sociale, je voudrais interroger deux terrains qui ont été présentés à l'instant. Un terrain historique qui est le Familistère de Guise et un terrain contemporain dont je parlerai tout à l'heure, c'est-à-dire les hackerspaces. Et j'ai fait une observation participante d'une année dans plusieurs, mais un d'eux en particulier dans la baie de Californie. Alors, avant de présenter ces terrains autour de ces deux thèmes, je voudrais d'abord, et ça sera le premier point donc de mon topo, vous persuader que nous abordons aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler un nouvel âge pour la sociologie des utopies, et que le fait de parler de sociologie en pratique, sociologie concrète, etc., n'est pas simplement une facilité qui vise à dépasser un oxymore. Donc, nouvel âge pour la sociologie des utopies, je passerai sur les deux terrains, et ensuite je conclurai sur quelques éléments programmatiques bien modestes, en faveur d'une grammaire sociologique de l'étude des utopies concrètes. Alors, je démarre, histoire de cadrer les choses, en disant que lorsqu'on regarde, en tous les cas, principalement, la sociologie française, on s'aperçoit qu'il y a trois moments, je crois, qui rythment la prise en compte du fait utopique. Le premier moment, ce sont les années 50, Tout ça est très bien, est très discret, puisqu'il y a deux auteurs qui comptent, si j'ose dire, à ce moment-là. Le premier, c'est un philosophe lorrain qui s'appelle Raymond Rouyère et qui produit un bouquin en 1950 où il passe en revue toute une série d'utopies, mais avec une attention extrêmement forte aux conditions sociales de production des utopies, et avec l'idée que, au fond, les utopies sont des espèces de longues vues puissantes pour voir la réalité du social au plus près, si je puis utiliser cette métaphore que j'emprunte à Bloch. Et plus encore, Rouyère fait une comparaison entre la sociologie de l'utopie et les mathématiques en disant « Travailler avec l'utopie en poche comme outil d'instrument, c'est comme travailler avec l'hypothèse dans le domaine mathématique. Hein, ça permet de mesurer toute une série de choses dans l'évolution des sociétés. Simplement, il y a une dimension normative assez forte, c'est que l'utopie sert aussi à réveiller les consciences du point de vue du registre des émancipations. » Et face à Rouyère, vous avez Georges Duvaux, qui est un historien sociologue, qui vient du surréalisme et qui s'est rapproché d'esprit par la suite, qui lui dénonce en fait le retour aux utopies d'une certaine manière, en rapprochant ça des débats à l'époque sur la planification, qui est une façon de maîtriser complètement l'avenir. Donc vous voyez, le moment de ce retour des utopies, c'est après-guerre, guerre froide, on voit bien comment les choses se passent. Deuxième moment, ce sont les années 70. En France, mais ailleurs également, ça fait référence à tout le mouvement d'installation des néo-ruraux dans le sud de la France, notamment. Et là, on a quelques travaux que certains d'entre vous ont certainement encore en mémoire. Je pense au livre de Daniel Hervieux-Léger et de son compagnon, dont le nom m'échappe à l'instant. Daniel Hervieux, c'est ça. Oui, c'est marqué sur le bouquin en plus. Et donc, ils ont fait une série d'observations empiriques dans ces communautés. Bernard Lacroix a fait aussi un bouquin sur l'utopie communautaire, mais on peut dire qu'on est dans le temps des désillusions à ce moment-là. C'est-à-dire l'utopie égale désillusion, puisque derrière l'analyse concrète des communautés néo-rurales, ce que l'on voit, c'est la domination, mais démultipliée par rapport au type de domination que l'on peut observer dans des milieux, si j'ose dire, de vie ordinaire. Le seul bémol, c'est un bémol avec Desroches, qui publie son bouquin également à ce moment-là. Mais grosso modo, c'est quand même une forme de désillusion qui crée un décalage assez fort avec la réalité américaine à ce moment-là, puisque dans la suite du Summer Love californien de la fin des années 60, on a aussi tout un mouvement de création de communautés utopiques en Californie qui va mobiliser presque 750 000 personnes sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Et à la différence de la France, ces communautés vont perdurer, alors qu'en France, ça va être un vrai échec. Bon. En tout cas, deuxième moment, et dans le cas français, c'est quand même, on redécouvre fondamentalement une domination plus dure encore que dans le monde, entre guillemets, normal. Et puis, j'irai à maintenant. Maintenant, je pense que nous revivons un nouvel âge de la sociologie des utopies, pour toute une raison qu'on pourrait évoquer. L'essentiel, c'est 89, la fin du la chute du mur, la fin d'un horizon socialiste auquel certains pouvaient encore s'accrocher, un bouleversement technologique fabuleux avec Internet qui donne d'autres perspectives de création de communautés alternatives. Et le net, on est une, tout le mouvement hacker au départ est né de cet enjeu-là. Alors, aux États-Unis, par exemple, il y a tout un courant déjà constitué, dont le chef de file est Eric Olin Wright, qui, vous avez la couverture du bouquin là, qui s'appelle Envisioning Real Utopias, qui date de 2010. C'est un livre qui, au départ, devait être coécrit par Eric Olin Wright et Michael Buravoy. Et l'enjeu, c'était de que faire du marxisme après la chute du mur, d'un mot. Alors, vous savez comme moi que Michael Buravoy est parti sur la sociologie public, et Eric Olin Wright a dit, puisque c'est fini pour le grand espoir socialiste, il faut imaginer d'autres possibles socialistes, et on va regarder la réalité des expérimentations sociales à connotation utopique. Donc, il y a toute une série de travaux qui se réalisent aujourd'hui sous ce programme-là. Donc, on n'est pas les seuls, et s'il y a une table ronde aujourd'hui autour de ce thème, je pense que ce n'est pas un hasard du tout. Alors, j'en arrive à mes terrains, justement, dans cet esprit de reconstruction nouvelle d'une sociologie des utopies concrètes. Et, comme je vous dis, premier élément de terrain qui sera forcément très lacunaire, c'est d'explorer la question de la domination charismatique à partir d'un cas concret qui est le familistère de Guise. Alors, ce familistère de Guise, certains d'entre vous le connaissent peut-être, il est le fait d'un industriel autodidacte qui s'appelle Jean-Baptiste André Godin, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque les poils Gaudin restent encore une référence majeure, et c'est lui qui a donc lancé cette production de légendes. Gaudin est un fourriériste, il est très proche de l'école sociétaire, et on peut dire qu'il a mis en chantier la seule expérience fourriériste concrète qui ait marché. Son expérience a duré une centaine d'années, et par l'ironie dont l'histoire seule a les secrets, elle s'est arrêtée en 1968. Voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, ça a fonctionné, et Gaudin a essayé de mettre en place toute une série de dispositifs pour pouvoir solutionner la question sociale de l'époque, en s'inspirant notamment de la philosophie fourriériste, au moins une partie de la philosophie fourriériste, pas l'ensemble. Et pour résoudre la question sociale, donc il a proposé des logements propres à bas prix à ses ouvriers, il leur a proposé un système éducatif intégré qui fait que depuis la naissance quasiment, jusqu'au cours du soir pour adultes, il était possible d'avoir accès à l'éducation au sein du Familistère. Il a mis en place des comités paritaires hommes-femmes au sein du Familistère en prônant une forme de féminisme relativement modérée. Donc il y a toute une série de registres qui sont des vraies avancées du point de vue des conditions de vie des ouvriers à ce moment-là. Alors il est vrai que Gaudin avait concentré sur sa personne tous les traits caractéristiques de la domination charismatique telle que Weber peut la décrire. C'est-à-dire le fait que ses ouvriers lui imputaient toute une série de qualités extraordinaires qui légitimaient sa façon d'agir, de penser et de dire. Et ça, c'est un problème des archives. Autant Gaudin parle beaucoup, autant c'est difficile d'entendre les ouvriers discuter parler de Gaudin. Mais dans les quelques traces dont on a, le terme de père, P-E-R-E, revient spontanément, si j'ose dire, dans la bouche des ouvriers. Donc il y a une forme de dissymétrie de ce point de vue-là, qui est structurellement intégrée dans les rapports sociaux au familistère, qui fait que la main est largement du côté de Gaudin. Alors Gaudin, ça marche pas. Bon, il y a un plan qui n'est pas passé, c'est le problème de passage du PC à peut-être. Bon, enfin bref, c'est pas très grave. Normalement, ici, vous imaginez, vous avez un plan du Familistère, c'est-à-dire un ensemble de bâtiments sur un espace relativement resserré, donc lieu d'habitation, buanderie, magasin, etc., qui fait que dans un cercle de 90 mètres carrés de rayon, vous avez tout sous la main et vous avez 1500 personnes qui vivent là. Alors, l'enjeu du travail de Gaudin, c'est quand même d'impulser une réforme morale, une réforme sociale dans la petite population dont il a la responsabilité. Et il se joue avec ça, notamment, des enjeux qu'on pourrait appeler d'économie morale, puisque en impulsant des réformes qu'il veut émancipatrices pour la classe ouvrière et notamment pour résoudre la question sociale, il souhaite éduquer les gens et un des enjeux majeurs, c'est que les ouvriers ne dépensent pas n'importe comment leur salaire. Tout le monde a en tête la fameuse question du Saint-Lundi. Les ouvriers touchent leur salaire, ils vont le boire le lundi au troquet. Et pour éviter ça, il a mis en place notamment une monnaie familistérienne dans laquelle donc, il payait ses ouvriers et avec laquelle ils allaient acheter leurs aliments, leurs robes, etc. Le seul problème, c'est qu'au fur et à mesure, cette monnaie s'est répandue dans l'ensemble de la ville et il était possible d'aller boire un pot avec la monnaie familistérienne. Et donc, Gaudin, en contrepartie, a mis en place un système de carnet de chèques, si vous voulez. Il a substitué la monnaie à des carnets de chèques et au fur et à mesure, il a réussi, si j'ose dire, à éduquer ses ouvriers au type de consommation qu'il souhaitait. Donc vous voyez, derrière l'objectif d'émancipation se joue quand même une forme de contrôle qui est d'autant plus fort et légitime que Gaudin condense sur lui une forme de charisme relativement fort. Alors, deuxième élément sur Gaudin, pour aller très vite, c'est que Gaudin met en place toute une série de réformes d'inspiration fourriériste qui toutes échouent, je n'ai pas le temps d'en parler, et donc en désespoir de cause, il fonde une association en 1880 qui est l'Association du Capital et du Travail, qui permet aux ouvriers de devenir propriétaires de leur usine. Et en 1894, tous les ouvriers de l'usine sont devenus propriétaires du moyen de production. Et cela en dépit d'une résistance extrêmement forte de la part des ouvriers. En d'autres termes, c'est grâce à la domination charismatique de Gaudin que l'objectif socialiste de l'époque, la suppression du salariat, a été obtenu. Donc là, il y a une chose qui est assez intéressante et qui bouleverse peut-être nos catégories habituelles dominant-dominés, qui montre qu'au fond, c'est l'action d'un dominant, certes hétérodoxe, qui a abouti à un travail d'appropriation des moyens de production. Donc ça mérite d'être noté. Et deuxième chose que je voudrais noter pour finir sur le cas de Gaudin, c'est que en fondant cette association, eh bien, la domination charismatique a évolué. On a complètement l'illustration du fameux théorème weberien de la routinisation du charisme, puisque petit à petit, Gaudin s'est retiré. Et ce sont le haut, les gens qui sont en haut de la hiérarchie sociale du familistère, ce qu'on appelle les associés, qui progressivement se sont emparés du pouvoir au sein du familistère pour réguler l'ensemble de la vie commune au sein du palais social. Voilà. J'en dis pas plus sur ce premier exemple, mais je pense qu'il pose déjà une série de questions sur le rapport dominant-dominé et sur la marche vers l'émancipation. Deuxième illustration qui m'intéresse, j'ai appelé ça anarchie, consensus communautaire et domination. Et la question qui m'intéresse, c'est en quoi certaines procédures de régulation communautaire, et je pense en l'occurrence à cette procédure qui est le consensus dans une tradition anarchiste, en quoi le consensus peut être une garantie ou pas d'ailleurs d'éradication de la domination au sein des communautés utopiques. Alors pour faire ça, je vous l'ai dit, j'ai travaillé pendant un an à San Francisco, et notamment dans un hackerspace, une quasi-communauté de travail, pourrait-on dire, qui s'appelle Noisebridge, qui est une communauté de hackers extrêmement célèbre à travers le monde, qui regroupe, disons, un noyau dur d'une trentaine de personnes, mais 100, 150 personnes régulièrement viennent fréquenter les lieux que je vais évoquer dans un instant. Dans la baie, il y a toute une autre série de hackerspace, donc vous voyez les différents logos, etc. Les hackerspace, ce sont des lieux qui sont des lieux physiquement situés, donc ce sont des locaux dans lesquels des gens comme vous et moi peuvent se rendre, puisque ce sont des espaces ouverts, hein, et dans lesquels on peut bricoler. Et donc l'idée des hackerspace, c'est de réinventer un nouveau rapport au travail, mais un rapport au travail qui soit marqué par une éthique, qui est l'éthique des hackers. Et cette éthique, elle est marquée par trois grandes caractéristiques. Première caractéristique, il faut que le travail, ça soit du plaisir. Et donc, s'il y a un truc qui m'emmerde, je ne le fais pas. Donc, le travail, c'est du plaisir. Deuxième chose, on supprime les hiérarchies verticales. Les formes de coopération sont fluides et nécessairement horizontales. Et troisième chose, il faut que le travail soit l'équivalent d'une œuvre d'art. Donc, on va redécouvrir l'exigence de beauté, d'esthétique, à travers le type de pratique qu'on va réaliser. Donc, voilà ce que c'est un hackerspace. Je pourrais vous en dire plus si vous souhaitez, mais c'est quelque chose qui se développe aujourd'hui à une vitesse grand V. Et voilà quelques photos qui vous donnent une idée de la réalité de ce lieu qui est Noisebridge, donc qui est un hackerspace au cœur même de San Francisco. Et vous voyez par exemple qu'il y a toute une série de machines. La machine fétiche d'Hackerspace étant ce que bricole le jeune hacker voilà, au milieu avec sa machine. Là, c'est une imprimante 3 dimensions qui permet d'imprimer des objets physiques à partir d'une imprimante. Jusqu'à présent, c'est surtout avec du plastique qu'on fait ça. Mais ça veut dire qu'on est en train, là aussi, de révolutionner les modes de fabrication de demain. Alors, cette communauté, elle se dit anarchiste. Elle se dit anarchiste et elle dit, puisqu'on est anar, pas de règles. Il y a une seule règle dans la communauté, c'est celle que vous voyez en entrant dans la communauté, qui est celle-là, c'est il faut être « be excellent with each other, dude ». Donc, soyez cool avec les autres, quoi, respectez-les, etc. Et pas d'autres règles. Le premier hackerspace français qui s'est intégré, qui a pris pied dans la région parisienne, a une règle aujourd'hui, c'est règle numéro 1, faire en sorte qu'il n'y ait pas de règle numéro 2. Donc vous voyez bien qu'il y a là une volonté de s'inspirer d'une tradition anarchiste pour penser complètement autrement les rapports sociaux et le travail. Alors bien sûr, lorsqu'on fait un travail d'observation participante de longue durée, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça. Et par exemple, une des choses qui m'a frappé, c'est de voir à quel point les dominations de genre restaient extrêmement fortes à l'intérieur de ces espaces alternatifs. Donc là, vous avez une photo de deux jeunes hackeuses ou hackeureuses, je ne sais pas comment on dit. Et cette domination de genre, elle se traduit déjà par une spécialité dans les types de hacks que l'on réalise. C'est-à-dire que les filles, il y a beaucoup plus de filles, par exemple, au hack des vêtements. Il y a un coin avec des vêtements, on prend des vieux vêtements, on met de l'électronique dedans, on les transforme, etc. L'activité cuisine, par lesquelles je m'étais intégré moi, notamment, parce que mes compétences informatiques étant limitées, est aussi davantage une spécialité féminine. Et puis quand il s'agit de débarrasser le bordel des autres, ce sont plutôt les filles qui s'y collent. Donc on retrouve là une espèce de condensation des formes de domination qui existent à l'extérieur. De la même manière, on est dans un lieu où la question des rapports de genre, et je dis vraiment au plus grand sens du terme, parce qu'on est à San Francisco quand même, et quand on dit genre, c'est pas simplement homme-femme, la question des homos, des gays, etc. se pose massivement, et aussi il y avait, par exemple, dans cet espace-là, il y a 3 hackers qui sont des trans, hein, donc cette question-là, elle est extrêmement sensible. Et donc, on a affaire à une population de hackers qu'il est difficile de qualifier comme ça, mais qui sont parfois des gens un peu fragiles et qui, quand ils ont bu, se laissent aller à l'insulte homophobe, etc. Et donc ça crée des dramas, hein, comme ils disent, hein, des conflits, etc., qui sont quand même assez rapidement régulés par la communauté. Et c'est là qu'on voit la force de cette communauté alternative, c'est que même si les dominations perdurent, en fait, il y a des capacités collectives à éviter les dérives excessives. Et par exemple, je vous donne juste une anecdote, un des types qui était un des piliers de la communauté avait bu à un moment donné, il a agressé à un moment donné un autre type avec des injures homophobes. Il avait beau être l'âme de la communauté, le mardi d'après, parce qu'il y a des réunions tous les mardis soirs, il est passé en discussion, etc. On l'a viré sans état d'âme du hackerspace et on a mis une affiche comme dans les westerns, en disant « si vous voyez ce mec, vous le virez immédiatement à la communauté hein. ». Donc ça plaisante pas, hein, ça plaisante pas. Donc il y a quand même des contreparties par rapport à l'esprit cool, anard qu'on associe au monde hacker. Voilà ce que je voulais dire. Alors, autre chose sur Noisebridge, pour rester dans les temps, c'est le fait que les relations de pouvoir, cette fois-ci, sont commandés, je dirais, par régulation et pouvoir sont plutôt, hein, sont commandés par 2 impératifs. Premier impératif, on est dans une communauté anard, et donc le vote, on n'aime pas. Hein. S'ils étaient là, qu'ils voyaient les urnes posées sur, comme c'était ce matin, bon, c'est vraiment l'anti-esprit de ce type de communauté. Le vote, c'est une escroquerie, c'est, enfin, vous connaissez comme moi la chanson. Et donc l'idée, c'est que toutes les décisions se font au consensus. Tous les mardis soirs, la communauté se retrouve et on traite les problèmes, on les résout de façon consensuelle. Alors vous imaginez le temps que ça prend. Dès qu'il y a un petit problème, c'est des heures et des heures de discussion. Bon, je n'ai pas le temps de développer là-dessus, mais je pense qu'il y a une espèce de fonction latente dans cette façon de faire, ça serait une autre interprétation. Mais au consensus. Et en même temps, il y a l'idée qu'on est des hackers, on est plutôt une branche de gens qui fabriquons le travail, l'activité. Appelez ça comme vous voulez, c'est central. Et c'est ça qui nous fait exister et qui donne sens à la communauté. Et donc le pouvoir, il est relié à cette idée de duocracy. C'est-à-dire le pouvoir appartient à celui qui fait. C'est-à-dire si je suis dans l'espace et que je veux bouger la table d'un coin à l'autre de l'espace pour des raisons X ou Y, du moment que les autres ne font rien, c'est moi qui ai raison. Et donc on voit bien se dessiner ici quelque chose qui, en pratique, là aussi, m'a sauté aux yeux à différents moments en observant le fonctionnement de la communauté, c'est la tension entre les deux principes. Parce qu'une chose est de se mettre d'accord de façon consensuelle, de l'autre est de dire « ok, celui qui fait, il a raison parce que c'est notre philosophie à cœur ». Mais là aussi, une anecdote, un type, une fois, a décidé de bouger toutes les étagères des membres de l'espace. Il a dit « je vais hacker le hackerspace ». C'est esprit, hein, esprit de hacker, anard, etc. C'était le bordel intégral dans la communauté. Tout le monde avait perdu ses affaires, donc il s'est fait tomber dessus. Il a dit, mais c'est pas normal, je hack le hackerspace, je me mets en grève de la faim. Enfin, vous voyez, donc je ne vais pas faire très long. Vous voyez qu'il y a des tensions, en fait, dans ces différentes sources de régulation qui sont assez intéressantes à regarder, là où on affiche justement une seule règle. Alors, ces tensions, on peut dire d'un mot qu'il y en a 2 qui sont majeures. D'une part, une opposition entre les crackers, c'est-à-dire les hackers tels qu'on les voit dans les médias, Anonymous, etc., ceux qui sont spécialisés dans le piratage informatique. Et il y a les makers, ceux qui travaillent davantage sur les objets, mais dans un esprit hacker. Hein, donc là, il y a les méchants en haut, et puis il y a plutôt les bons en bas, pour le dire d'un mot. Et deuxième tension, il y a ceux qui travaillent uniquement sur les ordinateurs, et puis il y a l'idée qu'on peut hacker n'importe quoi. Donc on peut hacker la nourriture, on peut hacker les vêtements, mais on peut hacker aussi la société. Et donc, ce mouvement hacking, il est très proche de tous les mouvements sociaux alternatifs de San Francisco, et toutes ces communautés-là étaient très investies, par exemple, dans le mouvement Occupy de l'année dernière. Hein, voilà. Voilà, en 2 mots. Alors, tout ça pour dire que j'ai fait, par exemple, un petit travail aussi. Je suis sur la liste d'échanges de ce machin-là. J'ai regardé la liste pendant 1 an, et ce qui m'a frappé, c'est de voir que 25% des messages qui s'envoient, c'est pour régler les problèmes de la vie quotidienne. Ce n'est pas des problèmes politiques, etc. Donc, dire on supprime la hiérarchie, on essaye d'écraser toute forme de domination, ça suppose quand même un travail de la communauté sur elle-même qui est extrêmement lourd, long. Hein. Comme dirait Gilbert de Texac, il y a un vrai travail d'organisation qui est présent là. Alors, je vais finir en deux mots sur ma conclusion en disant quelle grammaire sociologique des utopies concrètes. Quelles leçons peut-on tirer, modestement, de ces deux petits terrains pour un programme de recherche qui me semble aujourd'hui prometteur sur un travail d'analyse de ces communautés alternatives qui, portent, encore une fois, sont porteuses, je crois, d'éléments d'émancipation. Alors, j'ai repéré au moins quatre principes, en fait, quatre éléments que je voudrais énoncer d'abord sous forme de refus pour mieux proposer des arguments de type positif. Premier élément, c'est refuser désormais de considérer l'utopie comme un discours surplombant ou latéral. Hein, jusqu'à présent, c'est souvent comme ça que l'utopie a été traitée. On dit, regardez, c'est génial, il y a un texte machin, là par exemple, Akimbe écrit un texte sur les zones d'autonomie temporaire, etc. Non, je pense qu'on a intérêt aujourd'hui, en tant que sociologue, à faire le principe de l'immanence des utopies. Donc, c'est le premier pari intellectuel. Les utopies sont dans les plis du social, elles sont dans les plis du présent, il faut aller les débusquer. Et là, on a des terrains de première main extrêmement intéressants du point de vue sociologique. Donc ça, je dirais, c'est la première chose qui m'intéresse. Et du coup, ça fait référence vraiment à la petite esquisse de programme que Michel Foucault avait esquissé en 66 lorsqu'il s'était intéressé aux hétérotopies dans une émission de France Inter. Il dit « Je rêve d'une science des hétérotopies hein, ». Je reprends ces termes. Hein, et les hétérotopies étant des contre-espaces qui rompent radicalement dans leur fonctionnement avec les normes, les formes de domination dans l'ordre dominant. Hein. Donc là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais on pourrait engager un dialogue avec toute une série de propositions que Foucault avait faites à l'époque. Et moi, je dirais volontiers qu'aujourd'hui, utopie et hétérotopie, c'est le même. Voilà, première idée. Deuxième idée, c'est que pendant très longtemps, on s'est intéressé uniquement aux utopies dans leur matérialité discursive. En d'autres termes, on faisait les esprits brillants en commentant pour la 125e fois Thomas More, etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que sociologue, on a intérêt à refuser cette unique posture pour considérer les utopies dans leur matérialité non discursive. Il y a des expériences sociales, il y a des rapports de pouvoir, il y a des rapports de domination, donc on peut faire de l'observation, on peut faire des entretiens, etc. On peut donc mobiliser la méthodologie sociologique pour aller y voir et regarder comment ça fonctionne concrètement et quels sont les espaces possibles en termes d'émancipation que ces communautés alternatives sont en train d'inventer. Donc ça, c'est le deuxième principe, deuxième idée que je souhaiterais inventer. Troisième idée, j'ai pas su l'intituler comme il fallait véritablement, j'ai appelé ça principe de totalité, enfin etc., mais c'est le refus de continuer à raisonner en opposant communauté et société. Alors là, nous tous qui sommes ici, on est quand même bien calibrés en la matière. Hein. Depuis la première année de socio jusqu'à après, on nous explique « Ah, il y a la communauté, la chaleur de la Gemeinschaft, et puis il y a la société, individuation. » Enfin, toutes les thèses sur l'individuation ne sont que, au fond, la pointe ultime hein, de cette façon de voir le monde. Ce qui se joue aujourd'hui, je crois, avec l'émergence et la diffusion de ces communautés alternatives, c'est le fait que ces communautés sont de plus en plus ouvertes, elles sont plus refermées, telles qu'on pouvait se les imaginer auparavant, lorsqu'on pensait communauté utopique. Et donc, je crois qu'un des éléments d'un programme de recherche, c'est de prendre au sérieux les interactions entre ces communautés et, pour le dire vite, leur environnement. Hein. Et donc, on pourrait imaginer, c'est vraiment un pari intellectuel que je fais comme ça, de dire qu'il y a au moins plusieurs situations à regarder, par exemple des situations de bulles complètes, c'est-à-dire des communautés qui sont effectivement repliées sur elles-mêmes et qui sont complètement étanches par rapport à leur environnement. D'une certaine manière, je pense que le familistère de Gaudin rentrait dans cette catégorie-là, parce que Gaudin n'a pas fait tache d'huile. Il y a des cas de figure où il y a des contaminations réciproques entre ces communautés alternatives et puis les mondes avec lesquels elle est en interaction. Je pense que les hackerspaces sont dans cette situation-là. Alors, pour prendre juste un exemple, ce qui me faisait beaucoup rire dans les hackerspaces et à Noisebridge en particulier, c'est le fait d'utiliser une forme de mimétisme institutionnel, pour reprendre les termes de nos collègues américains Powell et Maglio, c'est-à-dire qu'on allait chercher des façons de faire dans la grande entreprise, à l'université, mais en les subvertissant. Et donc régulièrement, il y avait des espèces de unconferences dans ces hackerspaces, c'est-à-dire on reprend le principe des conférences, mais on se fiche complètement du rituel académique, on invite un conférencier, et puis vous avez un hacker au bout de la table qui est en train de bouffer des pâtes en écritant vaguement un truc, des gens qui sont en train de bricoler, etc. Donc on subvertit les codes des institutions environnantes. Et puis à l'inverse, bien évidemment, ces hackerspaces ont des effets sur le monde environnant, à tel point que certains pensent que ce qui se joue dans les hackerspaces prépare la troisième révolution industrielle en termes technologiques. Mais là, je n'ai pas le temps de développer. Donc, faisons sauter communauté-société et travaillons davantage en dynamique dans la façon de voir le fonctionnement de ces communautés. Et quatrième chose, je pense qu'une sociologie des utopies concrètes présente ses intérêts de nous interroger, nous, en tant que sociologues, sur nos catégories sociologiques. Donc, ça nous renvoie aussi à notre pratique de sociologue, à notre sémantique sociologique, etc. Je reprends juste un exemple et j'aurai fini. Je suis fondamentalement sociologue du travail et j'ai appris notamment de Jean-Daniel Reynaud qu'il y avait deux sources de régulation fondamentales dans l'entreprise. Il y a la régulation de contrôle, les règles imposées par les employeurs, et la régulation autonome, c'est-à-dire les règles que vont fabriquer ce qu'on pourrait appeler les dominés ou les salariés, tout ce que vous voulez. Ça marche bien. Le problème, c'est que ça ne marche pas du tout dans ces communautés-là. Donc il faut prendre au sérieux le fait qu'eux, par exemple, mettent davantage en tension consensus et duocratie, et donc on voit émerger d'autres formes et d'autres tensions de régulation sociale qui méritent qu'on interroge nos catégories sociologiques établies. Voilà, j'arrêterai là-dessus et je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup Michel, moi je vais vous présenter un projet, vous m'entendez? Ça va? Non? Dans l'axe du micro, comme ça, c'est mieux. Je ne vais pas pouvoir faire beaucoup mieux au niveau axe. Oui, alors moi, je vais vous présenter quelques projets. J'ai oublié mon carnet, Michel, tu veux bien le passer ? Merci. Que j'ai visité lors d'un projet qui est basé sur un périple que j'ai effectivement fait avec John Jordan. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que moi, nous ne sommes pas une seule et même personne, et qui est un périple qu'on a fait en Europe en 2007-2008, donc le périple lui-même remonte un peu et qui a donné lieu à un livre-film qui s'appelle Les Sentiers de l'Utopie. Et ce périple, c'était un peu une réaction, ou même beaucoup une réaction, à ce qui nous paraissait être à l'époque encore un discours dominant fort sur le capitalisme à gagner. Alors on a commencé à penser ce projet en 2005. Le capitalisme a gagné, voilà, c'est pas terrible, mais c'est tout ce qu'on a. Les utopies, ça marche pas. De toute façon, on sait bien que l'opposé du capitalisme, c'est le socialisme. On a bien vu ce que le socialisme, ça donne. Et puis, tous les projets d'utopistes ont échoué dans les années 70, donc voilà. Et que nous, c'était quelque chose qui nous paraissait insupportable, parce que des alternatives, on en connaissait énormément, et qui nous paraissait plus urgent que jamais de les rendre visibles, parce qu'il nous paraissait vraiment important de vraiment montrer que c'est pas que les alternatives n'existent pas, c'est qu'il y a une espèce de chape au-dessus. Et donc, on s'est mis à la recherche d'une multiplicité de projets qui avaient tous deux fils rouges entre eux, qui étaient que ce n'étaient que des projets qui étaient organisés selon des principes horizontaux, donc qui étaient tous à leur manière dans le rejet de la hiérarchie et de l'organisation de domination verticale, et qu'aucun d'entre eux n'était basé autour d'une religion ou d'une spiritualité, parce que ça nous paraissait être un domaine complètement différent. Alors il va sans dire qu'il y avait des pratiques individuelles, religieuses ou spirituelles dans les projets qu'on a visités, mais aucun n'était fondé autour de ça. Et un autre critère que l'on avait, c'était d'aller voir des projets qui étaient vraiment très très différents les uns avec les autres. On voulait vraiment se départir de la possibilité, de la suggestion qu'un problème donné, le capitalisme, il y aurait une solution donnée à la recherche de laquelle on se mettrait. Une fois qu'on l'aurait trouvée, on vous livrerait la solution, il n'y aurait plus qu'à la dupliquer et ce serait le bonheur. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. On pense pas du tout que ce soit la façon de faire, et c'est pas comme ça qu'on va s'y prendre. Et que du coup, c'est pour ça qu'on a nommé notamment le projet Les Sentiers. Ce qui nous paraissait plus intéressant, c'était d'imaginer ce projet comme des laboratoires, hein, des expériences, hein, qui n'avaient pas valeur de modèle, mais qui avaient valeur de leçons et de points d'ancrage, hein, pour différentes façons de faire. Donc voilà, donc on a fait un tour en Europe aussi parce que dans les milieux notamment activistes dans lesquels nous on évoluait beaucoup quand on habitait en Angleterre, elle est à l'envers, la carte de l'Europe. C'est ça, là. Je vois des gens qui font, mais je comprends rien. C'est l'utopie. Voilà. Souvent, dans les milieux activistes, les alternatives, les sources d'aspiration, elles étaient bien souvent lointaines et exotiques. Donc, les références étaient souvent les communautés zapatistes au Chiapas, les usines occupées en Argentine, les mouvements sans terre au Brésil. Et s'il ne fait aucun doute que ces expériences-là sont de grandes sources d'inspiration et qu'il y a beaucoup à apprendre, quand on habite à l'est de Londres, comme nous on l'était à l'époque, ou qu'on habite à Nantes ou en Bretagne, comme moi maintenant j'habite, monter une communauté zapatiste, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et qu'on s'est dit, il est important de montrer des expériences dans un contexte dont on comprend la dimension sociale, historique, culturelle, où il puisse vraiment y avoir valeur de laboratoire et de leçon, et pas seulement d'admiration distante. Donc voilà. Et alors, la façon... Donc ça, c'est la façon dont le livre-film était présenté, sachant que le film n'est pas un documentaire, mais plus une variation sur de la littérature utopiste. Donc c'est plus un road movie poétique dans un futur post-écologique, post-crash économique. Ce qui était assez drôle, c'est que nous, on a vraiment pensé tout ce projet en se disant « Et alors, comment ça va être après le crash ?» Et qu'on a fini, le voyage en 2008. Donc le futur a tendance à nous rattraper un peu plus vite que ce qu'on avait imaginé. Et j'ai envie de vous parler de ces différents projets sous la lumière du travail. Et du rapport au travail de chacun de ces projets, parce que c'est souvent, en fait, dans le rapport au travail, il y a vraiment une incarnation des valeurs de chaque projet, et que ces projets étaient vraiment très différents les uns des autres. Il y a donc, en hommage à William Morris, parce que quand on parle d'utopie, on ne peut pas trop le laisser de côté, des projets qui voient vraiment le travail comme travail-plaisir, donc un peu comme les hackerspaces. Et un des projets qu'on est allé voir, c'est un squat sur les abords de Canmas de Barcelone, par exemple, pardon, qui s'appelle Canmas Déo, qui a commencé en 2001, quand cette immense bâtisse, qui était en fait une léproserie, qui avait été abandonnée depuis plus de 50 ans, donc par définition, était entourée de jardins, puisqu'une léproserie, il fallait qu'elle puisse vivre en autarcie, et qui a été reprise par des squatteurs en 2001, qui ont nettoyé tous ces jardins et qui ont fait un appel aux gens du quartier en leur disant, si vous voulez venir travailler les jardins avec nous, vous êtes les bienvenus. Il n'y aura que deux conditions. Il faut que ce soit fait de manière bio et que ce soit géré de manière horizontale. Il n'y aura pas de chef qui dira quoi faire. Et c'est ce qui est très intéressant dans le projet de Canmas Déo, c'est que ça a ouvert un projet avec une relation intergénérationnelle entre notamment des retraités qui venaient d'Andalousie, donc des anciens, souvent des anciens paysans, des gens qui venaient de familles paysannes, qui avaient intégré les usines, notamment Seat à Barcelone, hein, qui se sont trouvés à discuter et à travailler avec des jeunes anarchistes squatteurs. Et ça donne des relations vraiment très 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 intéressantes. Pas toujours idéal, évidemment, mais avec finalement, ce qui est très intéressant, avec finalement beaucoup plus de points communs que ce qu'on pourrait imaginer. Donc voilà, ça c'est trois de ces retraités qui nous montrent une photo d'une fête qu'ils avaient fait ensemble. Et naturellement, dans ces projets, il y a vraiment un rejet fort du salariat qui est vécu comme une relation d'exploitation et de domination forte, qui est sûrement connue de beaucoup d'entre vous, et qui donc voit vraiment la relation, la division entre le travail et la vie quotidienne comme quelque chose à refusionner. Ça, j'imagine que c'est quelque chose qui doit être beaucoup à l'œuvre dans les hackerspaces. Et une des façons de faire ça, c'est qu'il y a vraiment tout un travail de réautonomisation, donc de faire pousser ses propres légumes, de faire son propre pain, afin de réduire énormément les coûts. C'est quelque chose qui se trouve beaucoup dans ces projets-là, avec beaucoup de récup, beaucoup de créativité. Et en fait aussi, un rapport aux règles très différent. Moi, je me démarquerais de cette notion que l'anarchie, ce n'est pas de règles. Je crois que l'anarchie, c'est souvent un rapport aux règles qui sont très différentes. L'anarchie, c'est souvent un rejet de la hiérarchie et de la domination et de l'État. Ce n'est pas forcément un rejet des règles. Et ce qui est très différent dans ces projets, c'est que chacun a un rapport aux règles propre et très distinct. Donc à Kadmasdeu, par exemple, ça fait partie de ces projets qui sont plutôt sortis des mouvements alters, donc avec une intégration de la facilitation, des réunions régulières, avec finalement une formalisation et une structure assez importante dans le quotidien, qui est très différente par exemple d'un autre lieu qui s'appelle la Vieille Valette, qui est un hameau squatté dans les Cévennes, qui existe depuis plus de 15 ans. Et qui en fait vient, alors l'origine est assez amusante puisque c'était un squat d'artistes à parisien dont le propriétaire a un jour dit: écoutez, moi j'aimerais bien récupérer mon bâtiment et j'ai pas envie qu'on ait toute cette saga de vous expulse, les flics, les machins, si je vous donne un petit pécule, est-ce que vous voulez bien partir? Donc méga dilemme éthique, et ils ont quand même décidé de prendre ce petit pécule et d'aller acheter une bicoque en ruine, mais vraiment une bicoque en ruine, avec un tout petit lopin de terre dans ce hameau, et de squatter le reste, qui est retapé de manière traditionnelle, avec une imagination folle, et qui intègre finalement une esthétique et une culture anarcho-punk très urbaine dans un coin très très rural, et qui a là un rapport aux règles complètement différent. La Vieille Valette, c'est très clairement un lieu où la liberté, c'est une liberté très individuelle, et il n'est pas question de faire n'importe quoi. Il y a un rapport à la responsabilité qui est très importante. Donc nous, on nous expliquait: ah, mais ici, tu peux tout casser si tu veux. Et d'ailleurs, il y a des fois, on le fait parce qu'on a tellement la rage qu'on casse tout. Si tu répares tout le lendemain, il n'y a aucun problème. Et donc c'est beaucoup plus un rapport liberté-responsabilité qu'un rapport aux règles. Mais il y a là encore vraiment une idée d'autonomisation, de récup. Alors là, c'est vraiment la créativité à la Vieille Valette, c'est quelque chose d'époustouflant, de mise en commun des ressources, et d'essayer de retrouver des techniques et des compétences plus anciennes qui permettent de se détacher de la dépendance, notamment aux énergies fossiles et à tout ce qui, crée une dépendance financière, technologique, même psychologique. Il y a un autre projet dans ce travail plaisir qui s'appelle Landmatters, qui est dans le sud-ouest de l'Angleterre, et qui est là une communauté dont l'objectif principal, c'est vraiment la réduction de l'empreinte écologique. Donc c'est une communauté qui est basée sur les principes de permaculture, où là encore, la production d'énergie, la production de nourriture sont les maîtres mots. Donc ils vivent dans ce qui s'appelle des benders. Donc c'est des tentes forestières traditionnelles anglaises qui sont faites en noisetier avec des bâches. Donc le principe d'un bender, c'est que quand on enlève ce qu'il y a à l'intérieur, on peut le laisser pourrir, hein, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas d'impact écologique. Donc à Landmatters, Landmatters n'est pas connecté sur le réseau, ni électrique, ni d'eau. Ils ont internet quand même. Ils ont eu internet avant d'avoir l'eau courante. Donc ils ont l'eau courante grâce à une pompe à main. Et là encore, c'est par contre un rapport aux règles qui est plus proche de Kadmasdeu. Donc avec des réunions, avec une certaine structure, c'est pas aussi anarcho-punk que si on aime les catégories bien stables, on les mettrait plus du côté des hippies, ceux-là. Ça, il faut bien vous l'avouer, mais j'imagine que et voilà. Et alors moi, ce qui me c'est la grange de Lan Mathes qui résume très très bien, il me semble, cette catégorie de projets qui disent words are not enough, les mots ne sont pas suffisants. C'est gravé sur leur grange. Il y a aussi toute une autre catégorie de projets qui est plus par là dans le travail choisi. Donc là, on est beaucoup plus dans des projets qui sont dans le choix d'activités, où il y a plus des activités professionnelles et professionnalisantes, mais plus dans l'idée du travail choisi. Alors, on est allé rendre visite à Longomaille, alors que moi j'appelle souvent la grand-mère des communautés, ça les agace beaucoup quand je dis ça, mais c'est pour faire honneur au fait qu'elle était montée en 73. Et que donc elles n'ont pas tout échoué, les communautés des années 70. Longomaille est vraiment à cheval, très clairement, entre le travail-plaisir et le travail choisi. Mais à Longomaille, il y a tout un rapport à la production qui essaye de prendre la production sur toute la filière. Donc, ils ont par exemple récupéré des moutons, et ils élèvent les moutons, ils ont récupéré une filature et ils essayent de faire tout le travail de la laine et de la viande en son entier. Ils font aussi ça avec la production de légumes, la production de bois. Juste en note de bas de page, une des choses très intéressantes avec Longomaille, c'est qu'ils se sont rendus compte assez rapidement qu'une des sources de tension dans les communautés, c'est qu'en fait souvent on vivait au quotidien et en permanence à beaucoup, et que ça créait de la fatigue, et que souvent les gens se sentaient le besoin de partir parce que par exemple les couples se défaisaient, alors que les gens n'avaient pas besoin de partir, n'avaient pas envie de partir. Et donc ils ont créé ce qu'ils appellent un archipel. Il y a 9 communautés Longomaille qui n'ont pas toutes la même taille, il y en a 7 en France et 2 à l'étranger, qui permettent de circuler. Donc quand un couple se sépare, n'a pas besoin de quitter et peut quitter Longomaille sans quitter Longomaille. Et donc ça, c'est, il me semble, quelque chose de très intéressant. Il y a là encore vraiment un travail sur l'autonomisation, la production, mais il y a quand même une réconciliation avec la dimension financière du quotidien. En gros, Longomaille a eu au départ de sa vie beaucoup d'argent. Alors, entre autres, parce que ça avait été monté par des Autrichiens, des Allemands qui connaissaient le système suisse et qui savaient bien que dans la tradition suisse, on donne aux projets comme ça. Et il y a eu beaucoup d'argent au début de Longomaille. Il y en a beaucoup moins maintenant. Mais ce sont quand même des projets qui fonctionnent avec de l'argent et qui ne sont pas dans l'économie absolue et permanente comme les 3 premiers que je vous ai présentés. Et ce qui est très intéressant à Longomaille, c'est qu'il y a par exemple une radio libre, Radio Zinzine, dont vous avez sûrement entendu parler, qui illustre très bien le refus de hiérarchie entre les activités manuelles et les activités intellectuelles. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très présent à Longomaille et dans d'autres projets, et donc dans les tâches obligatoires que chaque Longo doit effectuer, il y a la cuisine, le ménage et la radio. Parce qu'il fallait montrer, il fallait incarner toujours depuis 81 que les activités manuelles, les activités intellectuelles sont aussi importantes les unes que les autres. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. On est aussi allé voir une ferme autogérée qui s'appelle Cravirola. Il faudrait que j'arrête de dire ferme autogérée parce que Axel de Cravirola m'avait dit c'est complètement débile de dire ça. On dirait que les chèvres se gèrent toutes seules. Je t'assure, c'est pas le cas. Donc voilà, une ferme horizontale qui là encore est vraiment dans le choix de l'activité, dans le rejet du salariat, mais quand même avec une réappropriation de la notion de lucrativité, de dire finalement être lucratif, c'est pas quelque chose dont il faut nécessairement avoir honte. C'est un lieu où ils travaillent énormément. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant aussi, c'est qu'il y a un rapport à la quantité de travail qui est très différente. À Lan Mathes, à la Vieille Valette, à Canmas de Haut, il y a aussi vraiment cette volonté de ne pas avoir à travailler autant que quand on travaille dans le salariat. Alors qu'à Longomaille ou à Cravirola, il y a un rapport à la somme de travail qui est quand même vraiment très très différente. Alors, c'est juste pour ceux qui voudraient regarder le film, Kravirola n'est pas dans le film, parce que quand on est arrivé, ils étaient en train de refaire une fromagerie, et on les a aidés à faire la fromagerie, et donc on n'a pas eu le temps de sortir la caméra. Donc voilà, il y a une fromagerie à la place d'une séquence dans le film, à mon avis, ils y gagnent. Et le dernier projet dont j'avais envie de parler dans cette notion de... l'avant-dernier projet dans cette notion de travail choisi, c'est une école anarchiste dans le sud-ouest de l'Espagne, qui s'appelle Paideia, et qui est une école qui a démarré en 78, où il y a une soixantaine d'enfants qui vraiment co-gèrent l'école avec les adultes, de l'âge de 6 mois jusqu'à l'âge de 15 ans. Les enfants et les adultes sont en part égale dans toutes les décisions qui ont lieu à l'organisation de l'école, que ce soit le programme, la façon de l'enseigner, la cuisine, la bouffe, le ménage. Le rapport au travail de la part des adultes est là encore très intéressant puisqu'ils sont salariés. Ils travaillent de 9h le matin à 20h le soir. Pour pouvoir réinventer un rapport à la domination complètement différent. Donc c'est vraiment une somme de travail très importante, avec, là encore, beaucoup de règles qui sont toutes basées sur la liberté, c'est la responsabilité. C'est vraiment ce que les enfants apprennent en collaboration avec les adultes. Et enfin, je vais me dépêcher parce que sinon je vais être en retard. Le dernier projet, qui serait plutôt dans cette notion de travail choisi, c'est une communauté d'amour libre qu'on est allé visiter en Allemagne, à côté de Berlin. Alors là encore, je dis amour libre pour que les gens comprennent, mais en fait, eux refusent cette notion et disent en fait, nous on pratique l'amour libéré. Et ce qui était très intéressant à Zeg, qui est là encore un projet qui a commencé en 78, donc pour tous ceux qui se disent ça ne peut pas marcher sur la durée, eux, ils prouvent quand même que si, c'est possible. Et il y a une centaine de personnes qui partagent ce projet depuis 78, qui partagent le même site depuis 91. Et je vous invite à aller le visiter, parce que c'est sur une ancienne base de la Stasi. Donc c'est assez intéressant. C'est un projet extrêmement basé sur le romantisme et la sexualité, sur une ancienne base de la Stasi. C'est intéressant. Et ce qui est très intéressant à Zeg, c'est que ça demande énormément de temps de pouvoir pratiquer l'amour libéré, la transparence des relations, et que là encore, il y a vraiment un rapport aux règles très, très clair, parce qu'il y a énormément de règles, énormément de discussions, et que pour pouvoir produire cet ensemble, il y a beaucoup de petites entreprises qui se sont montées sur Zeg, qui finalement est un projet assez cher pour ceux qui y vivent. Et du coup, il y a vraiment, là par contre, beaucoup moins cette volonté de fusionner le travail et le quotidien. On est beaucoup plus dans une relation où le travail et le quotidien sont assez séparés, même si la plupart travaillent sur place. C'est quand même assez différent. Ce qui me paraît très important dans cette notion du travail choisi sur tous ces projets, c'est que par contre, il y a vraiment une réflexion sur la répartition des tâches, la hiérarchie inhérente des activités. Donc, on n'est pas complètement dans la version anarchiste du travail, mais il y a quand même vraiment une réflexion forte. Et puis finalement, il y a une autre catégorie qui est le travail comme site de lutte, avec un projet qui s'appelle, dont vous avez peut-être entendu parler, parce que depuis qu'on y est allé, mais c'est devenu très célèbre, c'est le village de Marinaleda, dans le sud-ouest, non, en Andalousie, pardon, en sud-est de l'Espagne, qui est un village qui est finalement monté, qui s'est créé sur des terres expropriées par des travailleurs agricoles journaliers, qui littéralement un jour se sont dit qu'ils en avaient assez d'être dans une relation de domination et d'oppression et de misère absolue, et qui nous ont raconté avoir un jour regardé la carte, s'est dit mais finalement nous on est travailleurs agricoles, ce dont on a besoin c'est de la terre, à qui appartient la terre? Et bien au duc, qu'on a 16 000 hectares, lui 16 000, nous zéro. On va rétablir l'équilibre. Et donc, ils ont mené 10 ans de lutte avec de l'action directe. Ils ont occupé l'aéroport de Malaga, de Séville. Ils se sont enchaînés aux moissonneuses-batteuses. Ils ont fait des grèves de la faim. C'est, Et ils ont, le duc a finalement abandonné ou laissé 1200 hectares qui sont maintenant gérés en 8 coopératives de production. Et ça, c'est le fameux maire Juan Manuel Gordillo, dont vous avez sûrement entendu parler parce qu'il a aussi organisé des, ce qu'il appelle des shopping prolétariens dans les, dans les, dans les supermarchés de la ville. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une, un rapport au travail comme le cœur de la lutte. C'est par rapport, c'est par le travail qu'on retrouve un rapport à la dignité, à la liberté, à la relation de domination. C'est vraiment par rapport à ça. Et là, on est vraiment, par contre, dans une relation ou dans des formes de travail beaucoup plus traditionnelles, puisqu'ils ont monté des... ils ont monté des coopératives avec de la production de légumes en conserve, où ce sont des personnes qui travaillent à la chaîne. Enfin, c'est le, la forme du travail est vraiment différente. Par contre, le rapport, hein, est-ce que la signification du travail est là vraiment très très forte. Hein, c'est vraiment le, l'emploi est devenu la façon de réinventer le rapport au collectif et le, la façon de faire autrement. Ce qui est exactement la... Ah oui, alors, pour l'anecdote, hein, ils ont aussi une télé. Et nous, quand on est arrivés, Gordillo était poursuivi en justice par Discovery Channel parce qu'il surfait, il piratait les fréquences de Discovery Channel pour montrer leurs émissions qui étaient faites dans un tout petit studio de télé qui ressemblait à un truc des années 70. Et le rapport... Le travail comme site de lutte, hein, c'est aussi ce qu'on a découvert à Zrenjanin, donc une ville industrielle à 80 km au nord de Belgrade, où les ouvriers de Jugoremedia, donc une entreprise pharmaceutique, ont mené une lutte très très dure pour pouvoir récupérer l'usine qui leur avait été extorquée par un escroc. Puisque dans un espace qui avait été ouvert au début des années 2000, quand le FMI a imposé à la Serbie de privatiser tout son parc d'entreprises, c'est-à-dire tout, en moins de 7 ans. Donc il y avait une vague de privatisation gigantesque qui devait être menée tambour battant. Et donc il y a beaucoup d'escrocs qui se sont emparés de cette manne. Celui qui avait racheté Jugoremedia, il était recherché par Interpol, ça vous donne une idée de la situation. Et il avait fait ce que souvent se passe dans ces situations-là, il a déclaré l'entreprise en faillite pour pouvoir virer les ouvriers, éliminer les conventions collectives, sauf que les ouvriers se sont rendus compte de ce qui se passait, ont mené là encore une lutte vraiment très dure pendant 4 ans, et ont réussi à récupérer leur entreprise qui est maintenant autogérée. Donc c'est vraiment, c'est là encore un rapport au travail comme façon de réinventer un processus collectif, même si là encore la forme du travail reste complètement traditionnelle. La façon d'organiser l'usine pharmaceutique n'a pas changé par rapport à la façon de travailler avant. Nous, quand on y est allé, il y avait deux autres usines qui s'étaient mises en occupation aussi. Donc Beck, qui était un abattoir, et Shinvoz, une entreprise de trains et de locomotives, qui, ni l'une ni l'autre, aucune de ces entreprises n'a malheureusement réussi à obtenir le succès de Jugoremedia. Et alors, ce qui me paraît intéressant, je voulais juste conclure très rapidement avec deux exemples rapides. Qui mêlent tous ces aspects ensemble. Le premier, c'est Christiania, qui est un quartier d'environ 1000 personnes en plein centre de Copenhague, qui est squatté depuis 1971, et qui, en fait, alors qui s'auto-intitule Libreville, The Free Town of Christiania, et qui a vraiment tous ces aspects-là sur la façon de gérer cette petite ville au cœur de la ville. Il y a vraiment certaines petites entreprises. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les fameux vélos Christiania, mais c'est un petit atelier qui fonctionne de manière assez traditionnelle, Il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup de petites boutiques. Mais Christiania a aussi son magasin avec les trois points jaunes omniprésents, des bars. Enfin, il y a eu toute une vague d'autoconstruction à Christiania, mais il y a aussi énormément de services publics qui ont été repris en main par les Christianites eux-mêmes, donc le ramassage des ordures, la poste, ce qui d'ailleurs leur fait dire avec fierté qu'eux payent leurs impôts comme les autres et qui se chargent de leur service eux-mêmes. Donc, et il y a dans le film, j'ai pas le temps de vous le passer, il y a le postier philosophe de Christiania qui résume une des situations de dimension de Christiania de manière très poétique et qui dit qu'à Christiania il y a 15 à 20% des emplois qui sont occupés par des alcooliques, des gens qui fument tellement de hache que finalement ils ne font pas grand chose et qu'on leur donne quand même ces emplois là parce que la fonction des emplois à Christiania, c'est pas seulement de faire fonctionner Christiania mais d'être Christiania et d'être cette utopie où les relations d'oppression et de travail sont vraiment différentes. Et ça, c'est par rapport à ce dont Michel parlait, ça me paraît très important. C'est que le rapport au travail est aussi fort symbolique par rapport à dans la communauté, par rapport à elle-même. Et puis, il y a, très rapidement, le projet de la Ronce, qui est le projet que Dion et moi vous confondez à la conclusion de ce projet. Pour un peu, je sais pas, j'espère donner un peu une note d'espoir hein, que finalement ces projets-là, ils continuent et c'est qu'on a nous-mêmes monté un projet qu'on espère être une utopie concrète où la relation au travail est aussi un peu un mélange de tout ça puisque on est très clairement dans un rejet des relations verticales. On est très clairement anarchiste et très clairement avec beaucoup de règles. On essaye le plus possible d'être dans le rejet du salariat et vers l'autonomisation. Donc voilà, il y a des utopies concrètes qui effectivement se multiplient. Et je suis tout à fait d'accord avec Michel que ce serait vraiment très intéressant d'en faire un programme de recherche sociologique qui soit moins distancié que ce qu'il a été jusqu'à présent. Voilà, merci.